Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Un geste fort du pape François à l'égard des musulmans, il a voulu leur adresser personnellement un message à quelques jours de la fin du ramadan. Pour le Saint-Siège, il est aujourd'hui nécessaire de renforcer la coopération entre les croyants. Vous entendrez le cardinal Torrent dans cette émission. Le pape François n'entend pas contredire les dispositions générales décidées par Benoît XVI concernant la célébration de la messe traditionnelle. Le directeur du bureau de presse du Saint-Siège a répondu aux journalistes après l'émoi suscité par la mise en tutelle d'un institut qui a opté pour le rite extraordinaire. Les communautés de vie chrétienne d'inspiration ignatienne tiennent leur assemblée générale au Liban. Ils veulent approfondir leur identité chrétienne mais aussi manifester leur solidarité avec les chrétiens qui souffrent au Moyen-Orient. Le pape François a donc voulu signer personnellement le message de vœux que le Vatican adresse tous les ans aux musulmans par le biais du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Une expression d'estime et d'amitié dans un contexte marqué dans certaines régions du monde par la montée des fondamentalismes et des phénomènes de radicalisation dont les victimes sont le plus souvent les minorités religieuses. Un message de vœux dont le but est de partager la joie des musulmans et non pas de faire référence au contenu de leurs convictions religieuses. Le texte insiste sur la promotion du respect mutuel à travers l'éducation, un respect qui, loin d'être à sens unique, implique un partage des deux côtés. Il s'agit de respecter non seulement l'intégrité physique des personnes, mais aussi leurs droits, leur identité ethnique et culturelle, leurs idées, leurs choix politiques, ainsi que les enseignements et les symboles de leur religion. Il s'agit aussi d'éviter toujours et partout la critique injustifiée ou diffamatoire. Le message demande que soient particulièrement respectés les chefs religieux et les lieux de culte. Les attaques perpétrées contre ceux-ci sont très douloureuses. Pour commenter ce texte et son caractère exceptionnel, nous avons interrogé le président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, le cardinal Jean-Louis Torrent.
C'est une initiative qui lui est tout à fait personnelle. Il a voulu par là montrer, je pense, le grand respect qu'il a pour les croyants de l'islam. En particulier, je me souviens qu'il a envoyé il y a quelques années un prêtre étudier l'arabe au Caire, un prêtre de l'archidiocèse de Buenos Aires, pour avoir quelqu'un qui soit capable, qui soit bien formé, disons, pour le dialogue avec l'islam en particulier. Et donc, en cette première année du pontificat, dans le contexte actuel, il a voulu lui-même indiquer que le dialogue interreligieux, en particulier le dialogue avec l'islam, est une des priorités de son pontificat.
Le thème de cette année, la promotion du respect mutuel à travers l'éducation, le pape François souligne l'importance d'éviter la critique injustifiée ou diffamatoire. Il souligne aussi l'importance de réserver un respect particulier aux chefs religieux et aux lieux de culte. Faut-il y voir une référence directe à des situations précises ?
Sans aucun doute. Je crois que le pape, comme nous tous d'ailleurs, il est tout à fait conscient que nous ne connaissons pas suffisamment. Malgré tous les efforts que nous avons faits, nous devons apprendre à nous respecter, à respecter nos croyances, à respecter nos rites, à respecter nos lieux de culte. Et là, les chefs religieux, évidemment, ont une très grande responsabilité dans la formation de leurs fidèles. Et je crois que le pape insiste beaucoup sur cet aspect du respect mutuel. Et je crois que, malheureusement, c'est ce qui est un peu décevant dans ce dialogue islamo-chrétien, c'est que nous avons fait beaucoup d'efforts ces dernières années, nous avons obtenu des petits résultats, mais ces petits résultats ne sont jamais passés au niveau de la loi ni au niveau des règlements administratifs. Alors il faut encore faire un gros effort pour mieux nous connaître, mieux nous apprécier et ne pas nous considérer comme des concurrents, mais comme des chercheurs de Dieu.
Depuis le dernier message, il y a près d'un an, il s'est passé donc de nombreuses choses. D'un côté, les catholiques ont un nouveau pape. De l'autre, les tensions se sont exacerbées dans plusieurs pays à majorité musulmane, l'Égypte, la Tunisie, la Syrie. Dans certains de ces pays vivent d'importantes communautés chrétiennes qui ont peur, parfois même très peur. Est-ce que ces deux facteurs se reflètent dans ce message ou dans le travail du dicastère que vous dirigez ?
Dans les deux cas, je crois que souvent on confond en Europe au moins l'islamisme et l'islam, et on ne peut pas nier non plus que le fondamentalisme est un ennemi commun. Donc il y a un effort à faire au niveau de l'intelligence, de la culture, et ça ne peut se faire que dans la mesure où les chefs religieux sont conscients de la gravité de la situation et ont la volonté ensemble de l'améliorer. Mais ça passe par l'école, par l'université, ça passe par la confiance mutuelle, l'amitié, sinon on restera toujours un peu comme des ennemis potentiels.
Ce message est exceptionnel, on l'a dit, dans la mesure où il porte la signature du pape. Sur le fond, peut-on y voir certaines évolutions, la patte du pape François?
Je crois que le pape François se situe dans la ligne du pape Benoît XVI. Il ne faut pas oublier que le pape François succède à un pape qui a été, je pense, dans ce siècle, le pape qui a le plus parlé de l'islam, et un pape qui a visité 3 mosquées. Et donc, je crois que le pape est décidé à continuer cette ligne de mutuelle collaboration, le désir de se connaître davantage malgré les difficultés. Plus c'est difficile et plus il faut dialoguer. Ça, moi, je crois que c'est une constante et une conviction ferme de ce pape, comme de son prédécesseur d'ailleurs.
Donc, continuité sur le fond, c'est dans la forme que peut résider le changement dans l'approche du pape François?
Le pape, d'ailleurs, le premier jour de son pontificat, lorsqu'il a parlé avec la délégation des musulmans, a été extrêmement cordial. Il a reçu, l'autre jour, nous sommes allés avec une autre délégation. Il a été extrêmement cordial. Tout le monde est touché par sa simplicité, mais ce n'est pas un naïf. Il sait parfaitement quelles sont les difficultés. Et donc, à travers la gentillesse, il y a évidemment aussi le souci de ne pas oublier les chrétiens qui souffrent dans certains pays à majorité musulmane, sans oublier non plus les musulmans qui parfois sont l'objet de discrimination dans d'autres pays. Donc je crois que c'est un homme qui est à la fois très doux, très simple, mais aussi très conscient des difficultés. Ce n'est pas un naïf.
Au-delà des déclarations de bonnes intentions et des rapports positifs que l'on peut observer à de nombreux niveaux, la réalité sur le terrain est parfois difficile. Comment faire pour éduquer au respect et apaiser les tensions?
Ben, vous savez, je crois d'abord qu'il faut aider les journalistes, d'abord, parce que je pense que les grands médias ont une grande importance. Aider les journalistes à bien informer, à bien s'informer. Et ensuite, il faut, à travers l'enseignement du fait religieux à l'école et à l'université, faire tomber les préjugés. Pratiquement, la plupart des problèmes naissent de l'ignorance.
On le voit, l'islam politique et le fondamentalisme sont loin de faire l'unanimité, y compris et surtout dans les pays musulmans eux-mêmes. Vous-même, êtes-vous inquiet pour l'avenir de ces pays, pour celui des pays voisins comme le Liban ou la Jordanie?
Ah, sans doute, parce que vous savez, le mal est contagieux, le bien aussi. Alors, il faudrait essayer de faire prévaloir le bien sur le mal. Mais il ne fait pas de doute que l'évolution que nous voyons sur le terrain politique ne peut que susciter une préoccupation. Parce que tous ces conflits, évidemment, ne sont pas causés par la religion, par les religions, mais leur solution suppose une dimension religieuse.
Le cardinal Jean-Louis Torrent, interrogé par Hélène Destombes. Le supérieur général de la Compagnie de Jésus s'est rendu au Liban pour participer à la 16e Assemblée Générale de la Communauté de Vie Chrétienne qui se déroule du 30 juillet au 8 août. Le père Adolfo Nicolas doit présenter un exposé sur l'importance de la spiritualité ignatienne pour les laïcs. Les communautés de vie chrétienne ont choisi le Liban pour exprimer leur solidarité avec les chrétiens d'Orient et c'est une première. 400 délégués jésuites et laïcs venus de 66 pays sont réunis sous le thème « De nos racines aux frontières ». Ils sont invités à approfondir leur identité chrétienne et ignatienne et à relever les défis actuels, mais ils veulent aussi manifester leur solidarité avec les chrétiens qui vivent dans cette région, berceau du christianisme, mais qui vit dans la tourmente et l'incertitude après l'espoir du printemps arabe. La messe d'ouverture a été présidée par le patriarche maronite, le cardinal Béchar Araï. Ce dernier a remercié les délégués pour cette initiative fraternelle qui permettra d'encourager les chrétiens à préserver leur présence dans cette partie du monde. Son souhait est que tous les Libanais, toutes confessions confondues, puissent vivre ensemble et prendre conjointement les décisions nationales. C'est une affaire qui fait grand bruit et soulève de vives polémiques. La Congrégation romaine pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique a nommé par décret un commissaire apostolique à la tête des communautés des frères franciscains de l'Immaculée pour une durée indéterminée. Ce décret a été approuvé par le pape François en forme spécifique. En 2007, ce jeune institut avait décidé de privilégier la messe traditionnelle. Olivier Bonnel.
Né dans les années 70 dans la région italienne de Bénévent, sous l'impulsion d'un conventuel italien, les frères franciscains de l'Immaculée ont connu au fil des ans un essor remarquable, avec leur volonté de favoriser un retour aux sources originaires. En 2007, à la faveur du motu proprio Summorum Pontificum, promulgué par Benoît XVI, ils sont revenus en partie à la forme extraordinaire de la messe en s'en faisant les promoteurs. Un choix préférentiel mais nullement imposé, selon les termes du supérieur. Du coup, la sanction romaine est perçue par les défenseurs de la messe en latin comme un changement de stratégie du nouveau pape. Faux, répond le bureau de presse du Saint-Siège, la nomination d'un commissaire ne concerne pas seulement les questions liturgiques, mais la vie et le gouvernement de cette congrégation dans son ensemble. L'Institut avait d'ailleurs fait l'objet d'une visite apostolique lancée il y a un an sous le pontificat de Benoît XVI. Selon la presse italienne, les frères auraient été instrumentalisés par des groupes traditionnalistes. Ils auraient même tenté une médiation entre le Saint-Siège et la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Une situation délicate, d'autant qu'au sein même de l'Institut, ce choix était loin de faire l'unanimité. Selon leur porte-parole, les frères ont accueilli, dans une attitude d'obéissance respectueuse, la décision du siège apostolique. Ils sont fils de l'Église et lui offrent leur collaboration la plus totale.
Et dans un tweet sur son compte @pontifex, le pape François affirme que la certitude de la foi ne nous rend ni immobiles ni fermés, mais nous met en chemin pour rendre témoignage à tous et dialoguer avec tous. Et j'ajoute cette information qui est tombée il y a une semaine déjà, mais dont nous n'avons pas parlé dans cette émission. Selon une étude d'une agence de communication spécialisée dans les relations publiques, le Saint-Père est le responsable mondial le plus influent au monde sur Twitter. Le président américain reste le leader mondial le plus suivi, avec 33 millions de followers. Le souverain pontife est le deuxième, avec 7 millions de followers. Mais ses messages en espagnol sont retweetés en moyenne plus de 11 000 fois, contre une moyenne de 2 309 fois pour Barack Obama. Au Cameroun, le nouvel administrateur apostolique de l'archidiocèse de Yaoundé est revenu sur sa nomination dans une interview à la radio nationale du pays, ainsi que sur ses rapports avec l'archevêque démissionnaire Mgr Tonier Bacco et les chantiers qui l'attendent. Mgr Jean Barca précise qu'il a été chargé par le pape François de gérer un diocèse vacant, une situation de transition, et d'assurer la stabilité de l'église locale. Il connaît bien Mgr Simon Victor Tonier Bacco, soupçonné d'avoir trempé dans plusieurs affaires immobilières. Il a été son économe et son premier vicaire général. Pour lui, c'est un grand pasteur, un homme de foi et de prière. Dans cette interview, il ne commente pas les accusations de malversation largement relayées par la presse et affirme être triste de voir les choses se terminer de façon précipitée. Dès sa désignation lundi, Mgr Jean Barca a procédé à plusieurs changements dans l'archidiocèse en nommant par exemple un nouveau recteur de la cathédrale et un nouveau secrétaire à l'éducation. Interrogé à ce sujet, il a indiqué avoir écouté les prêtres avant de procéder aux nouvelles affectations et avoir voulu asseoir une équipe canoniquement autorisée, des propos qui ont suscité de nombreuses conjectures dans la presse camerounaise avec des rivalités ethniques en toile de fond. Dans son diocèse d'Ebolowa, dont il reste l'évêque, Mgr Jean Barca s'est fait remarquer par son combat contre les mauvaises pratiques, dont la sorcellerie et l'abus d'alcool. Les résultats de l'élection malienne sont tombés ce vendredi à la mi-journée. L'ancien Premier ministre, Ibrahim Boubacar Keïta, arrive en tête avec 39,2% des votes. Il devra donc passer par un second tour face à l'économiste Soumaïla Cissé. Au-delà du résultat pour l'organisation Caritas Mali, ce scrutin est déjà une réussite. Elle avait déployé une vaste mission d'observation à travers tout le pays. 153 observateurs ont été formés pour surveiller la bonne tenue du scrutin dans les bureaux de vote et une plateforme virtuelle a été mise en place pour recueillir et analyser les données envoyées en temps réel par les observateurs de Caritas. À la lumière de ces données, Théodore Togo, secrétaire général de Caritas au Mali, se félicite de la mobilisation des citoyens maliens.
Personnellement, je suis confiant parce que les élections que nous avons expérimentées montrent que les Maliens sont décidés à tourner la page. Et on a senti qu'ils ont eu le besoin de se donner un président. Nous avons senti une population engagée, une population mobilisée. Mais bien entendu que le délai imparti ne permettait pas à l'ensemble de la population d'aller aux urnes parce qu'il fallait trouver le bureau de vote. Il y a des choses qu'il faut nécessairement améliorer. Il faut que le gouvernement prenne des dispositions pour s'assurer que tous les électeurs peuvent voter librement et sans obstacle. Nous avons lancé un appel aux candidats pour qu'ils acceptent le résultat du scrutin et qu'ils soient gagnants ou perdants. Le président, il est là pour servir le pays, tout comme autres citoyens, chacun doit participer à la construction de ce pays.
C'était le secrétaire général de Caritas au Mali. 4 jours après le départ du pape François, la présidente brésilienne Dilma Rousseff a promulgué jeudi une loi visant à protéger les victimes de violences sexuelles. Cette loi est cependant critiquée par l'Église catholique qui y voit un premier pas vers une dépénalisation élargie de l'avortement. La loi rend obligatoire le traitement d'urgence des victimes de violences sexuelles dans les hôpitaux publics et leur accès à des médicaments pour empêcher une grossesse non désirée comme la pilule du lendemain. Jean-Baptiste Cocagne.
La mesure s'appelle prophylaxie de la grossesse et cela ne plaît pas à l'Église catholique. Pour la Conférence nationale des évêques, le terme prophylaxie équivaut à associer la grossesse à une maladie qui doit être évitée et cela est inadmissible. Au Brésil, l'avortement est déjà autorisé en cas de viol jusqu'à 8 semaines de grossesse quand le fœtus présente une malformation congénitale sévère et qu'il ne survivra pas à la naissance ou quand la vie de la mère est en danger. Le thème de l'avortement avait suscité un vif débat pendant la campagne pour l'élection présidentielle de 2010. Dilma Rousseff s'était engagée par écrit à ne pas promouvoir une libéralisation totale. Avant le vote, le chef de cabinet à la présidence, Gilberto Carvalho, a reçu des prêtres et des laïcs des mouvements pour la vie qui lui ont remis une demande de veto. Il a déclaré que les religieux avaient été durs avec la présidente, mais que le gouvernement écoutait également les groupes féministes. Pendant son séjour d'une semaine au Brésil, le pape François n'a pas abordé la question, mais le 27 juillet, sur la plage de Copacabana, où il devait présider la veillée, un millier de militants de la cause féminine ont défilé en faveur de l'avortement et du mariage gay, brisant des croix et des statues de saints et scandant des slogans anticatholiques. Ils ont suscité l'indignation, y compris dans les rangs des laïcs.
Lourdes a enregistré le 19 juillet dernier son 69e miracle. La guérison de l'italienne Daniela Castelli en mai 1989 a été reconnue comme miraculeuse par l'évêque du diocèse de Pavie, Mgr Giudici, le 20 juin 2013. Cette femme, aujourd'hui âgée de 67 ans, souffrait, avant son pèlerinage à Lourdes, d'hypertension artérielle. Et depuis son passage au sanctuaire marial, elle mène une existence tout à fait normale. Le docteur Alessandro De Franciscis, président du comité médical international de Lourdes, explique au micro de Maxime Babser comment se déroule le processus de reconnaissance d'une guérison miraculeuse.
C'est aux piscines de Lourdes que Madame Castelli a entendu comme une sensation extraordinaire de bien-être. C'est le mari qui a dit à son épouse « Je sais ». Tout est fini. La personne qui soupçonne être guérie vient en totale liberté voir le médecin permanent des sanctuaires. Et il lui dit, docteur, je suis guéri. Et je les enregistre entre 30 et 40 par an. Nous avons dans nos archives un peu plus de 7000 guérisons qui restent inexpliquées pour le côté médical et scientifique. Et on a, à partir de la semaine dernière, une galerie de 69 guérisons reconnues formellement être guérison miraculeuse. Si je vous parle de 7000 guérisons, c'est facile de se rendre compte qu'on fait bien plus que 7000 guérisons dans quiconque centre hospitalier universitaire, dans quiconque chef-lieu de département en France, qu'à Lourdes dans toute son histoire.
Pour qu'une guérison inexpliquée devienne officiellement un miracle, faut-il nécessairement la reconnaissance de l'évêque, du lieu où habite la personne miraculée?
C'est l'église d'appartenance à la personne guérie, et donc là évidemment c'est l'évêque, qui peut déclarer à manière formelle que la guérison est une guérison miraculeuse. Ce miracle a été déclaré tel le matin du 20 juin. Le 20 juin, c'est le lendemain matin de l'inondation de Lourdes. Nous, à Lourdes, le 19, nous avons vécu la journée la plus dramatique des dernières 60 ans. Et voilà qu'ailleurs, à 1500 km, cet évêque signe. Alors vous voyez, de la boue, voilà que pour la grâce, le miracle, le signe, comme dans les évangiles, nous est donné.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit un miracle reconnu à Lourdes? Est-ce que vous vous sentez heureux ou est-ce que les sentiments sont multiples dans ces cas-là?
C'est clair que de mon regard médical, je suis sûr que la guérison reste inexpliquée. Et d'autre part, le chrétien que je suis heureux et reconnaissant à cet évêque et aux évêques qui évidemment nous font de temps en temps voir que Jésus, Christ, par sa mère, par l'intercession de sa mère, Marie, évidemment, nous donne encore des signes pour nous aider à croire.
C'était le président du Comité médical international de Lourdes. Et c'est la fin de notre émission. Mais vous pouvez nous écouter, nous réécouter, nous lire à tout moment sur notre site internet à l'adresse radiovaticana.va. Rejoignez-nous également sur Facebook Radio Vatican Français, sur Twitter et sur nos applications. Et si vous avez des questions ou des idées, une adresse macfra@vatiradio.va. Merci de votre fidélité.